Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Vous nous rejoignez pour le journal des idées. Et Jacques, bientôt 30 ans après la chute du mur de Berlin, plusieurs livres reviennent sur l'histoire intellectuelle contrastée de l'ex-RDA.
Oui, le site de critique, j'allais dire le site de rencontre, mon Dieu. Le site de critique En attendant Nadeau en recense 3, Clara. L'historienne Sonia Combe enquête sur les loyautés paradoxales de certains intellectuels. Un essai de Frédéric Joly explore l'itinéraire de Victor Klemperer, l'inusable auteur de La langue du Troisième Reich et témoin du passage du nazisme au communisme. Et Ingo Schulze, qui avait 28 ans lors de la chute du mur, livre dans son roman Peter Holtz, Autoportrait d'une vie heureuse, un témoignage décalé, plus picaresque, que nostalgique de ce pays qui s'est volatilisé. Si la littérature a produit quantité d'ouvrages qui traitent d'abord de la division, puis de la réunification de l'Allemagne, le récit historique a fourni un exemple éclatant d'écriture de l'histoire par les vainqueurs, souligne Sonia Combe dans un livre paru aux éditions Le Bordelot sous le titre « La loyauté à tout prix, les flouets du socialisme réel ». La brutalité du processus de réunification sur le plan économique et social s'est également traduite dans le domaine intellectuel et universitaire, où les Allemands de l'Ouest ont investi en un temps record tous les postes de pouvoir en diffusant leur interprétation d'un état d'arriération académique dû à la prégnance d'une entre guillemets dictature. L'auteur raconte par exemple qu'une chercheuse s'est vue dénier la parole lors d'un colloque par un historien ouest-allemand devenu directeur d'un institut en charge de l'histoire de la RDA au motif qu'étant de l'Est, elle ne pouvait être objective. On peut se demander par ailleurs, comme Sonia Combe, dans quelle mesure ce récit univoque n'aurait pas favorisé la montée de l'extrême droite. L'enquête de Sonia Combe s'instruit notamment de l'ouverture des archives de la RDA, celle des différentes unions, écrivains et artistes, du Parti communiste ou de la Stasi. Et c'est un regard différencié sur l'expérience du socialisme réel qui surgit et n'en demeure pas moins triste. Fin de citation. Car c'est une culture de la loyauté à l'égard de l'idéal socialiste qui amena les intellectuels est-allemands à formuler leurs critiques à l'intérieur du parti en se gardant de les exprimer en public ou à l'étranger, qui aboutit à les rendre inaudibles après la chute du mur. L'appel lancé le 28 novembre 1989 par Christa Wolf et signé par tout ce que la RDA comptait d'esprit critique en faveur de notre pays et pour le maintien des valeurs socialistes fut balayé par la perspective de la réunification. Sonia Combe analyse dans le détail cette position critique de l'intérieur qu'on a pu qualifier de Linientreuer Dissidents, soit de dissidence fidèle à la ligne du parti, qui fut celle d'Anna Segers, Bertolt Brecht ou Ernst Bloch, lesquels formèrent à l'esprit critique la génération suivante, celle des Christa Wolf, Volker Braun ou Heiner Müller. Et toujours dans cet esprit de subversion loyale. C'est ce qui explique aussi que le régime ne soit jamais parvenu à vaincre la résistance du fameux « n'enfer qu'à sa tête » Eigensinn, à tous les niveaux, à commencer dans les rangs du parti. Ce type d'injonction contradictoire à l'égard du pouvoir communiste en RDA fut l'expérience vécue de Victor Klemperer au jour le jour, comme le montre Frédéric Joly dans un livre publié chez Premier Parallèle sous le titre « La langue confisquée ». Après avoir disséqué la langue du Troisième Reich et sa force hypnotique, le philologue resté dans l'Allemagne sous contrôle soviétique constate avec effroi l'identité de la chanson soviétique et de la nazie, cette obscure emphase au fort relent de sociétés secrètes et de réactions masquées. Pourtant, là aussi, par loyauté, il n'entrera pas en dissidence affichée et se refusera à assimiler nazisme et communisme au motif que les points communs, et notamment la même déstructuration de la langue, ne témoignent pas des mêmes intentions. Dans la dernière livraison des actes de la recherche en sciences sociales, Joseph Hiver esquisse une sociologie du désenchantement politique et des coups de l'engagement militant à la lumière des parcours d'une mère et de son fils engagés au cours des années 1970-1980 dans le mouvement des familles de détenus politiques au Maroc. Tant que l'action collective donnait du sens à leur investissement et même le renforçait, une sorte de bonheur paradoxal soudait le groupe dans cette expérience carcérale culturelle élargie. Pour l'enfant élevé dans ce contexte, l'engagement était synonyme de recherche de reconnaissance, un ressort affectif sur lequel s'appuie le travail de socialisation, ce qui se traduisait notamment par un niveau élevé de réussite scolaire. Mais dès lors que ce contexte s'est défait dans la démobilisation provoquée par le divorce des parents, puis la libération des détenus, des troubles sérieux ont affecté le fils après une recherche éperdue de causes de substitution, les Palestiniens ou le mouvement des diplômés chômeurs. L'engagement a une valeur symbolique forte, il peut aussi avoir un coût.